Matière à penser, Frédéric Worms.
Matière à penser, cette semaine autour de animal-humain, la relation entre ces deux adjectifs. Quelle est exactement cette relation? Faut-il les opposer? Faut-il les réduire l'un à l'autre? Faut-il au contraire y voir justement une relation absolument vitale pour chacun des termes qui la composent? Nous allons en parler ce soir avec Jocelyne Porcher. Animal humain, ce soir avec Jocelyne Porcher, directrice de recherche à l'INRA, auteur de nombreux ouvrages sur la question, ouvrages de différents genres littéraires, on en parlera, mais aussi et peut-être surtout d'un livre à la découverte intitulé « Vivre avec les animaux ». Bonsoir Jocelyne Porcher.
Bonsoir Frédéric Grant.
Merci beaucoup d'être là ce soir. Je voulais peut-être partir d'une hypothèse qui n'est pas exactement celle de la semaine, justement, telle que je viens de la présenter. Est-ce qu'il y a entre l'animal et l'humain une relation ou bien une opposition? C'est un peu la même hypothèse, mais ce que je lis à travers vos ouvrages, avec beaucoup de conséquences, y compris évidemment politiques et autres, c'est l'idée que finalement, il y a deux manières de vivre avec les animaux, ou plutôt il y en a une manière qui n'est plus une vie justement avec, mais il y a deux types de relations profondément différentes entre l'humain et l'animal. C'est pas d'un côté l'humain et de l'autre côté l'animal, mais vous opposez radicalement deux façons de nous relier aux animaux. Est-ce que je me trompe? On va évidemment essayer de dire lesquelles, Jocelyne Porcher, mais est-ce que je me trompe si je dis que c'est ça votre ligne directrice?
Mais dans ce que j'essaye de travailler, il y a à la fois une unité, par exemple, dans la relation aux animaux domestiques, où je n'oppose pas les animaux de ferme aux animaux de compagnie. C'est-à-dire, je pense que c'est des animaux domestiques et que ce qui nous relie, le petit tiret de homme-animal, c'est le travail. Mm-hmm. Et donc, aussi bien les chiens, les chevaux que les vaches, on est avec eux au travail. Mm-hmm. Et c'est ce qui fait sens dans notre relation.
Voilà.
Mais d'un autre côté, pour ce qui concerne les animaux de ferme, là, je fais une opposition radicale entre l'élevage, ce que j'appelle l'élevage, le rapport historique de travail aux animaux, avec des rationalités multiples du travail, dont la première, c'est un des mes résultats de recherche, est le vivre ensemble, le lien, en fait, la relation, et ce qui a été généré par le capitalisme industriel au 19e siècle et la naissance de la zootechnie, ce qu'on appelle aujourd'hui élevage industriel, qui est impropre puisque c'est un oxymore, ce terme. Mais moi, je dis, c'est les productions animales, la production de la matière animale à travers les animaux. Tout ça a été conceptualisé au 19e. Et là, il y a une rupture radicale pour moi au milieu du 19e.
Oui, c'est intéressant que vous ayez commencé par critiquer une distinction possible qui serait celle de l'animal domestique et l'animal d'élevage. C'est pas ça votre distinction. Au contraire, j'ai l'impression que vous faites de l'élevage un modèle d'une relation avec l'animal qui est le contraire de la production industrielle, qui réduit l'animal, on va y revenir, à un objet, à un produit finalement, une chose dont on tire un produit, et qui d'ailleurs dénature aussi l'humain, parce qu'en fait, pour vous, Jocelyne Porcher, selon la relation qu'on a avec l'animal, on est, j'allais même pas dire plus ou moins humain, on est humain ou on l'est pas, en fait. Et j'ai l'impression qu'il y a une relation avec l'animal où on est humain, et une relation avec l'animal où celui qui est en relation perd aussi son humanité. Non seulement l'animalité de l'animal, mais l'humanité de l'humain.
Oui, oui, c'est ça. Il y a une relation qui nous grandit, qui grandit élevée, c'est ça, quand même. C'est
élevé, voilà. Et souvent, on oppose l'élevage et l'élève de l'école humaine. Enfin, on oppose.
Mais pourtant, c'est.
Pour vous, c'est le même mot.
Par exemple, une jeune vache, une génisse, c'est une élève. On dit c'est une élève.
C'est le mot technique.
C'est le mot de l'élevage. Et il y a. Bon, ça ne me vient pas, mais il y a plusieurs mots comme ça qui relient. Et dans les entretiens que j'avais faits avec les éleveurs pour un des ouvrages, l'analogie la plus fréquente chez les éleveurs, c'est celle de l'instituteur, de l'école.
Ah oui.
C'est-à-dire.
Qui compare l'élevage et l'éducation, finalement.
Voilà, c'est une éducation, c'est un rapport d'autorité, et c'est un enrichissement mutuel. Et c'est vrai que je défends l'élevage sur ce côté de l'agrandissement de l'humain dans la relation à l'animal, avec un animal qu'on doit, porter d'un point A à un point B en l'élevant, en lui donnant quelque chose en plus, qui n'est pas seulement du muscle ou du gain moyen quotidien. Quoi.
Pas seulement des caractéristiques extérieures, objectives, mais en reconnaissant aussi son altérité, sa subjectivité. Voilà. Je me souviens très bien que la première fois que je vous avais entendu parler, Jocelyne Porcher, il y a très très longtemps à Bruxelles, dans un séminaire sur le soin, ça m'avait beaucoup frappé parce que vous disiez que, justement, vous citiez le vocabulaire des éleveurs, et il disait quand ils allaient travailler, je vais aux soins. Je vais aux soins. C'est-à-dire, il y a une autre comparaison. Il y a l'éducation et le soin aussi du vivant, y compris par humain. Là, on retrouve ce vocabulaire du soin dans l'élevage tel que vous le décrivez.
Oui. C'est comment Michel Salmona l'avait mis en évidence avant moi. C'est vrai que la relation, quand vous vous levez, que vous allez soigner les bêtes.
On dit, je vais soigner.
Voilà, je vais soigner les bêtes, je vais nourrir, pailler, vérifier que tout va bien. On dit je vais soigner les bêtes. Et pas qu'elles sont malades, effectivement, c'est un rapport de soins.
Oui, d'ailleurs, soigner, c'est pas forcément traiter une maladie. Voilà, c'est d'abord avoir égard à une subjectivité, répondre à des besoins, bien sûr, nourrir. Justement, est-ce que vous voyez ces deux sens du soin aussi vis-à-vis des animaux, c'est-à-dire répondre à un besoin objectif malgré tout, qu'ils aient pas froid ou faim, mais en même temps avoir égard à eux justement en qu'individu qu'on reconnaît comme tel.
Oui, si on va soigner les bêtes, c'est qu'on les prend en considération. C'est le respect en fait. Ce que je pense, le mot clé en élevage, c'est le respect, c'est-à-dire respect de soi déjà et respect de l'animal dans son existence. Et oui, on le prend en considération et on prend en considération ses besoins. Voilà, c'est quelqu'un qui existe, qui dépend de nous, puisque si c'est l'hiver par exemple, voilà, il faut amener de l'eau, amener du foin, puis si c'est pas l'hiver, il faut emmener les animaux à la pâture,
L'impression, Jocelyne Porcher, que dans cette distinction, il y a quelque chose de très de philosophie fondamentale, j'allais dire, ça va peut-être vous faire un peu peur, mais je le pense vraiment. Mais qu'en même temps, il y a une dimension de philosophie qui ne vous intéresse pas du tout, et je crois que je partage en fait cette idée. Finalement, la différence supposée métaphysique, ou au contraire, la communauté métaphysique entre l'homme et l'animal, ça vous intéresse pas tellement, finalement, Jocelyne Porcher, il me semble. Enfin, vous rejoignez, à mon avis, vraiment, je le redis parce que je veux pas paraître minimisé, vous rejoignez des enjeux philosophiques très très profonds, mais pas sur le mode métaphysique homme-animal.
Non, mais c'est aussi parce que je pense qu'on n'est rien sans les animaux, qu'on n'existe pas sans les animaux. On est humain avec les animaux. C'est peut-être un sentiment que j'ai lié à mes recherches et au fait que moi-même j'ai été éleveur, mais c'est que ni la différence homme-animal, ni l'animal comme prochain, effectivement.
Oui, ou l'animalité de l'homme, abstraitement parlant.
C'est vraiment Oui, ce qui m'intéresse, c'est la proximité et le fait que...
C'est la relation, finalement.
La relation et le fait qu'elle nous est nécessaire pour être humain. On est humain avec les animaux, et c'est pour ça que ce qui se passe en ce moment, je trouve ça terrible, c'est qu'il n'y a pas d'anticipation de ce que c'est qu'être humain sans les animaux. Enfin, on ne sait pas. Et moi, je pense qu'on ne sera pas humain sans les animaux. Si on enlève notre part animale, on va la remplacer par autre chose, par des robots, par de la machine, par...
Ce qui est intéressant.
Mais ça fera un vide. Voilà. Si on enlève notre part animale, on aura un vide. On sera comme amputé.
Mais justement, en fait, ce qui est intéressant dans ce que vous venez de dire et qui confirme un peu mon hypothèse, c'est que si on vit sans les animaux, ou de la mauvaise manière aussi avec les animaux, c'est-à-dire un peu contre eux, on perd à la fois son animalité et son humanité. Enfin, on perd les deux. Donc, ce n'est pas une différence métaphysique. La vraie différence pour vous, c'est entre une certaine manière de vivre avec eux et une autre. Alors venons-en déjà un peu à l'autre qui suscite aussi votre critique politique, votre critique morale, votre critique aussi esthétique, y compris dans certains livres qui comportent des photos. L'autre, c'est justement, il ne faut pas dire élevage industriel, mais le rapport industriel à l'animal. Alors, comment est-ce qu'on peut opposer l'un à l'autre assez clairement, comme ça, à dire l'élevage d'un côté, l'industrie de l'autre?
Je pense, ce que je dis, c'est les rationalités du travail. Les rationalités de l'élevage du travail, elles sont multiples. On travaille pour vivre avec des animaux, pour gagner notre vie grâce à eux. Il y a des rationalités morales, des rationalités esthétiques. Avoir des beaux animaux, c'est quelque chose qui compte. Dans les systèmes industriels, il n'y a qu'une seule rationalité, c'est le profit. Il n'y en a pas d'autre, et ça depuis que la zootechnie a conceptualisé la production animale depuis le 19e siècle. Donc on est vraiment dans un rétrécissement de la relation, puisque il n'y a plus de relation, enfin, du point de vue des procédures du travail, parce que c'est pas le cas du point de vue du travail réel, vu qu'au contraire.
Les dimensions refoulées reviennent.
Voilà, exactement.
Finalement.
Les gens
la
souffrent au travail.
La dimension animale de l'humain, la dimension morale et esthétique. On a beau les mettre à la porte, par exemple, de l'abattoir ou du site industriel d'élevage, enfin, ou du, je sais pas, de la ferme, si on peut encore l'appeler comme ça, le refoulé revient.
Mais oui, parce que quand les procédures du travail disent, et depuis le 19e siècle, hein, l'animal c'est une machine. La vache, voilà, c'est comme un au fourneau. Hein. Il y a des choses qui rentrent, il y a des choses qui sortent. Il faut que, entre les deux, il y ait du profit. Le porc charcutier, c'est une manière de désigner un cochon qui est tout à fait lié à l'industrie. C'est un produit, c'est rien, c'est de la matière animale. Donc ça, c'est les procédures. Les procédures disent ça, mais quand on travaille avec les animaux, évidemment, on n'est pas avec des machines, on est avec des animaux qui nous regardent, qu'on touche, et on est dans une proximité physique et tout ça. Donc, bien sûr qu'on sait que c'est pas des machines, mais comme on doit les traiter comme des machines ou comme des choses, et ben là, ça fait ce que De Jour appelle une souffrance éthique, quoi, une souffrance morale profonde. Quoi.
Pour les humains eux-mêmes, c'est-à-dire pour les humains, dans cette notion de souffrance éthique, oui, vous citez Christophe De Jour et vous dites il faut prendre en compte la violence que les humains se font quand ils traitent les animaux de cette manière violente. Ils se font une violence aussi à eux-mêmes. Et en fait, c'est pas des bons sentiments de dire ça, ça se documente, les enquêtes le montrent, médecins le montrent, il y a une souffrance humaine au travail dans ce cadre-là.
Ben oui, il y a tout ce que De Jour décrit, il y a des défenses contre la souffrance, quoi, qui fait qu'on peut tenir au travail, parce qu'on est blindé. Et le problème se pose quand le blindage s'effrite, quoi. Mais tant qu'on est blindé, on est protégé par une armure mentale contre la souffrance, quoi. Mais
c'est un des points, Jocelyne Porcher, où, de façon très prudente toujours, vous rejoignez. Depuis ce traitement industriel des animaux, des actes entre les humains, c'est-à-dire vous n'hésitez pas à le faire parfois, à dire qu'il y a un imaginaire de l'extermination qui passe entre certains traitements des animaux et qui a eu lieu aussi entre des humains. Mais c'est un des points, c'est justement ce blindage de celui qui inflige la souffrance en réduisant ceux à qui il l'inflige à des choses, à des produits.
Mais oui, mais parce que il faut
vous le faites toujours très prudemment, sur le fond de cette distinction qui est très précise entre deux types de relations.
Oui, mais là, dans les systèmes industriels, depuis la première fois que j'ai mis les pieds dans ces. C'était un ahurissement, quoi, qu'on puisse traiter les animaux comme ça.
Alors racontez-nous, parce que vous le racontez très bien dans différents livres. Donc, d'abord, vous avez fait vous-même de la recherche en zootechnie, mais vous avez été éleveuse ou éleveur, je ne sais pas comment vous voulez l'écrire ou le prononcer. Et puis, donc, à un moment, vous rencontrez, vous passez de l'élevage comme une pratique, et vous rencontrez l'abattage comme pratique opposée, finalement.
C'est pas l'abattage, c'est un système porcin, une structure de production.
Ah, c'était avant même l'abattoir.
J'ai quitté une
porcherie
petite,
industrielle.
Voilà, je suis arrivé dans une porcherie industrielle. Et non, j'avais pas idée qu'on puisse. C'était vraiment un choc, affectif par rapport aux animaux. Un choc moral et puis aussi une colère contre les gens qui faisaient ça et je pense que d'ailleurs a posteriori mais je pense que j'ai hésité à répondre à cette violence. En fait,
sur le moment même déjà.
C'est-à-dire à
ouvrir, par exemple, à libérer des animaux, à faire des gestes comme on en voit beaucoup aujourd'hui. Cette violence produit beaucoup de militants aujourd'hui, produit beaucoup de résistance.
Voilà, mais en fait, comme j'ai travaillé avec ces gens, comme je travaillais, je me suis dit, mais comment ça se fait que c'est des gens gentils? Enfin, voilà, on parle ensemble, on mange ensemble, on fait et qui sont capables de faire ça. Et donc, en fait, ce qui a poussé ma reprise d'études et tout, c'est de chercher à comprendre, parce que je ne comprenais pas. Mais ce qui, je pense que, je n'ai jamais pensé comme ça, mais je le pense là tout de suite, c'est que cet univers concentrationnaire, ce que je dis dans Vivre avec les animaux, a renvoyé à des trucs, à l'idée de l'univers concentrationnaire, des ouvrages de Primo Levi, d'Antelme, de ce que les gens avaient vécu dans ma famille. Ils me disaient, mais c'est pas possible que ça.
Oui, vous dédiez un chapitre certains de vos oncles.
Mes oncles ont été déportés. Mais justement, c'est vrai que c'est dur de se dire tu penses à ça parce que tu l'as déjà en tête. Mais en fait, Non, parce qu'après, j'ai travaillé ça après, parce que j'ai rencontré beaucoup d'éleveurs qui me disaient, mais c'est comme les camps, c'est machin, c'est... Donc je me disais, mais pourquoi ils disent ça? Et même des gens qui travaillaient dedans. Je me disais, mais pourquoi ils disent ça? Alors moi, je pense, je le ressens, parce que bon, pour des raisons personnelles.
Mais non, eux, mais ils pas le seulement, disent. Vous l'avez oui, voilà. Un peu justifié par des arguments, voilà. Même très précisément, en fait.
Mais du coup, j'ai cherché à creuser cette analogie. En fait, je l'ai pris comme une analogie, pas comme Patterson, comme une comparaison. Parce que la comparaison, je pense, elle est pas... c'est pas une comparaison qu'il faut faire, c'est une creuser l'analogie, se dire pourquoi il dit ça, et donc voilà, dans un...
Mais je crois que ce qui donne de la force à votre analogie, il y a plein de manières de le faire. Il y a aussi ceux qui résistent à l'analogie, ou bien qui disent justement, face à ce traitement des animaux, ben, il faut se rappeler soit qu'on n'est pas des animaux, soit au contraire que les animaux doivent être pleinement respectés. Et par exemple, on ne peut pas les tuer, on ne peut leur infliger aucune souffrance, ce qui n'est pas votre cas, puisque du côté de l'élevage aussi, ça aboutit à de la mort. Hein. Vous assumez très courageusement aussi la question de la mort. Chez l'animal et donc aussi chez nous, chez les humains, parce qu'au fond, à travers l'animal, c'est toute notre vie que vous repensez. Pensez la mort, pensez... Mais ce que je trouve très, très profond, c'est donc cette opposition de deux relations, la mort industrielle et l'élevage qui passe d'abord par la vie, justement. Mais ça vaut aussi pour les humains. Jocelyne Porcher, on a envie de dire, ce que vous nous permettez de penser, c'est la destruction chez les humains et chez les animaux, mais aussi la vie humaine, qui serait aussi du soin, de l'éducation, même s'il y a aussi de la mort et de la maladie. Alors, on ne tue pas les humains, mais malgré tout, il faut admettre le négatif partout, même dans la vie, du moment qu'il y a la vie aussi.
Ben oui, s'il y a de la vie, c'est qu'il y a de la mort. Oui. Voilà, c'est ça le béaba de... Donc, c'est penser...
Du vivant, finalement.
Voilà, c'est les deux faces d'une même pièce. C'est ce que dit Yankelevitch. Si quelque chose meurt, il y a que ce qui n'est pas vivant qui ne meurt pas. Voilà.
Exactement. Seul le vivant peut mourir, ça me paraît aussi fondamental.
Seul le vivant peut mourir, donc...
Ça ne veut pas dire qu'il faut accepter la mort. Il faut résister à la mort, du point de vue des humains, en tout cas.
Moi, je crois que...
Je veux dire, accepter le fait de la mort, la nécessité de la mort, mais toujours résister à sa cause entre les humains.
Aller vers la vie, mais d'ailleurs, en élevage aussi, c'est pour ça que, autant les systèmes industriels sont un outil mortifère et cruel et violent, enfin, tout ce qu'on peut dire sur ces systèmes vraiment qui sont ignobles, autant, à l'inverse, l'élevage, c'est vraiment un métier de la vie où le ressort, c'est de vivre une vie partager avec les animaux, qui soient belles, qui soient ancrées dans la nature, enfin qui soient à la hauteur des existences dont il est question, quoi. Et celles des animaux, des vaches par exemple. Voilà.
Mais alors vaches, quand même, Jocelyne Porcher, contrairement à l'éducation ou à l'élevage humain, expression d'ailleurs qui a fait beaucoup controverse aussi, contre chez Nietzsche, chez certains de ses successeurs aujourd'hui, entre l'éducation des élèves humains et l'élevage des animaux ou des bêtes, puisque vous assumez aussi ces mots qui sont là dans une langue ancienne et qui définit l'humain, d'un côté, il y a quand même de la mort. Il y a quand même, au bout de l'élevage, il y a quand même cette possibilité, voire cette nécessité. Et ça, pour vous, ça, justement, c'est pas un contradictoire.
Non, pour moi, non. Et pour tous les éleveurs que j'ai rencontrés qui font ce métier, non, parce que en fait, la mort des animaux, c'est une condition de notre vie avec eux, parce qu'on est dans des systèmes finis. Enfin, ça a l'air trivial. Par exemple, beaucoup d'éleveurs disent, si l'on leur dit pourquoi vous tuez les animaux, tout ça, ils disent on peut pas tous les garder. Et j'ai pas pris en considération assez tôt cette phrase.
D'en vivre avec les animaux, vous le faites.
Voilà, mais parce que on peut pas tous les garder, bon, ça a l'air comme ça de
malthusien, un peu cynique.
Puis de se défausser, de dire ouais, on peut pas tous les garder, mais en fait, on peut pas tous les garder. Ils disent, par exemple, j'ai fait partir tel animal. Donc c'est bien ça, c'est qu'on est dans un espace où on peut pas garder tout le monde et il y en a qu'on fait partir. Alors il y a ça, il y a le fait qu'on est dans un système si fini et si il y a des animaux qui naissent, il faut qu'il y ait des animaux qui partent, c'est évident, on n'a pas de ressources suffisantes. Donc ça c'est le truc basique dans un système d'élevage. Puis il y a aussi le fait que les animaux font partie de notre alimentation et ça c'est les deux s'articulent en fait.
Parce qu'il y a quand même, Jocelyne Porcher, une petite différence. Par exemple dans un très beau texte sur la mort humaine, Hans Jonas décrit, ce texte s'intitule « Fardeau et bénédiction de la mortalité » et il dit en fait effectivement si nous étions immortels, la Terre serait surpeuplée, n'y aurait plus besoin d'enfants. Oui. Et au fond, le rêve du transhumanisme ne permet plus de transmettre la vie à la jeunesse, aux enfants qui arrivent. Mais quand même, on ne tue pas les hommes pour ça. Alors que par cette nécessité métaphysique de la mort et cette nécessité vitale du rapport entre vie et mort, chez les animaux, ils passent par un acte quand même. Alors, il ne faut pas l'appeler meurtre, je ne pense pas que vous l'appeliez comme ça, de donner la mort quand même pour des raisons humaines. Oui. Ça, vous l'assumez aussi, et je pense que c'est très, très important de le penser comme vous le faites.
Mais, oui, c'est donner la mort, oui, ce n'est pas du tout un meurtre, parce que pour un éleveur, les animaux ne sont pas des prochains, c'est des êtres dont ils partagent la vie, avec qui ils travaillent. Ils sont dans leur monde et nous, on est dans le nôtre. Sauf on est ensemble dans l'interface entre monde humain, monde animal. Mais voilà, eux, ils sont ancrés dans leur monde et on n'y a pas accès. En plus, ça, les éleveurs le savent. Hein.
On ne sait pas comment eux vivent leur vie.
On a accès par le travail. On fait des choses ensemble. On leur parle. On leur fait faire des choses, la traite. On vit ensemble longtemps avec les animaux reproducteurs. On les connaît. On sait leur caractère, tout ça. Mais voilà, on n'est pas dans leur tête et eux, ils ont une relation au monde, notamment qui passe par leur sens, hein, qu'on n'a pas. Donc, on n'a pas les sens qu'ont les animaux. On peut pas, mais ça n'empêche qu'on est ensemble et que.
Dans un livre qui s'appelle Le Livre blanc pour une mort digne des animaux, il y a même des œuvres qui essayent de reproduire la vision des vaches frontales et avec juste des formes géométriques et des couleurs minimales. C'est une déduction, mais c'est aussi une œuvre d'art, Jocelyne Porcher.
C'est des travaux, je pense que l'iconographie, elle est issue de travaux d'éthologues
ou de
scientifiques qui essayent de réfléchir à la façon dont Mais moi, ce dont je parle, c'est pas dans la façon dont une vache voit, parce qu'on le sait. Oui. Enfin, je veux dire, quand on travaille avec les bêtes, on voit, par exemple, si elle voit comme une poule, hein, qui voit quasiment derrière. Mais par contre, comment ils ressentent le monde? Par exemple, moi, quand j'étais éleveuse, que je voyais mes brebis contempler les Pyrénées, quand il y avait du vent, on voyait les Pyrénées. Voilà, les chiens regardaient les Pyrénées, je regardais les Pyrénées, les moutons regardaient les Pyrénées, parce qu'ils apparaissaient juste quand il y avait du vent. Et voilà, là on se dit...
Elle sentait l'apparition des Pyrénées.
C'est-à-dire qu'elle regarde comme nous on regarde, et en même temps, elle ne voit pas la même chose. Elle ne voit pas les Pyrénées.
Deleuze cite parfois un texte de Plotin, un philosophe de l'Antiquité, qui dit « tout contemple ». Les animaux contemplent, les plantes contemplent. C'est la contemplation. Alors, il y a la peinture ou la photographie aussi pour essayer de nous mettre dans ce rapport de contemplation du monde. Il y a aussi la chanson, vous avez proposé de jalonner cette conversation avec Jean Ferrat, Jocelyne Porcher.
C'est dans l'aube, chère à Verlaine, que tu courais notre domaine. Humant l'air des quatre saisons, odeur de thym et de bruyère, sous tes pattes fraîches, légères, s'élevait comme une raison. Berger des landes familières, tu vivais digne et solitaire, animal doué de raison. J'écris ce jour anniversaire où tu reposes sous la terre à deux pas de notre maison. Ourale, ourale, ouralou, ourale, ouralou, ourale, ourale, ouralou, ourale, ouralou. On voit souvent des souveraines à la place des rois qui règnent, rien qu'en posant leurs yeux dessus. Il faut se méfier du paraître de nous deux qui était le maître. Nous ne l'avons jamais bien su. Tu vécus la vie parisienne.
France Culture, matière à penser, Frédéric Worms.
Matière à penser, cette semaine animal-humain, ce soir avec Jocelyne Porcher autour de la relation de l'humain avec les animaux. Et nous venons d'entendre, Jocelyne Porcher, une chanson qui est pour vous importante de Jean Ferrat, une des chansons d'ailleurs où apparaissent des animaux dans les chansons de Jean Ferrat, Oura Laura Lou. Comment est-ce que vous l'entendez, cette chanson, Jocelyne Porcher? On sent qu'elle résonne pour vous avec les pratiques de l'élevage, avec la relation, j'allais dire, profonde et juste avec les animaux, qui s'opposent à une autre, on va y revenir, mais comment est-ce que cette chanson pour vous incarne tout ça?
Bah déjà, merci Frédéric Vamps de me l'avoir fait réentendre ici, parce que elle est très touchante, je trouve, et c'est c'est...
C'est un hommage à un
chien. C'est un souvenir, un hommage à son chien, qui est mort, quoi. Mais ce que je trouve beau, c'est à la fois, c'est vrai que cette chanson est reliée à toutes les autres chansons de Ferrat. Mm-hmm. En fait, pour moi, surtout ce qui relie à la montagne et tout ça, la disparition déjà, la perte dans la montagne. Et le fait qu'il y a quelque chose à quoi s'arrimer, enfin s'accrocher pour ne pas le perdre, quoi. Là, c'est le souvenir d'un animal. Moi, j'ai eu des discussions avec des collègues, hein, parce qu'à un moment donné, je ne sais plus dans quel livre, j'écris que justement, le souvenir, quand le temps passe, enfin qu'on vieillit, le souvenir d'une personne et le souvenir d'un animal, ils sont au même plan.
Alors, c'est une question, Jocelyne Porcher, que je voulais vous poser. Alors, vous faites de l'élevage une relation très profonde qui peut servir de modèle pour penser beaucoup de dimensions de la vie humaine. Mmh. On parle d'éducation, du soin. Vous dites aussi, par exemple, hein, une phrase qui m'a beaucoup frappé dans Vivre avec les animaux, un animal d'élevage est un animal avec un éleveur. C'est une relation vraiment très profonde, et ça m'a fait penser à une phrase de Winnicott sur le bébé humain. Un bébé, ça n'existe pas, ce qui existe, c'est le bébé et les soins maternels. Oui, oui. Donc il y a une unité. Mais pour vous, quand même, est-ce qu'il n'y a pas une différence entre, même si on peut penser les relations humaines à partir des relations avec l'animal, est-ce qu'il n'y a pas une différence entre les deux, quand même, Jocelyne Porcher? Qu'est-ce qui, pour vous, serait peut-être pas en plus, mais par exemple même dans le deuil d'un animal ou dans le deuil entre humains, est-ce qu'il n'y a pas une différence de plus, quand même, malgré tout?
Mais ce que je pense, c'est que évidemment là, si un deuil tout de suite là, ça, si je perdais mon chien, si je perdais quelqu'un que j'aime, ce serait pas pareil. Ah. Mais 20 ans après,
d'accord.
Eh ben le souvenir d'un animal, il flotte comme le souvenir d'un humain. C'est-à-dire, il reste les bons moments en fait quand on se souvient des êtres qu'on a aimés. Il reste les bons moments, et les bons moments avec un animal, les bons moments.
Donc, toute proportion gardée, il y a quand même une différence, mais qualitativement, c'est du même ordre.
Ah ben, dans le souvenir, il reste les bons moments. Et ils ont la même valeur parce que c'est des bons moments précieux à se remémorer ou qui reviennent malgré soi d'ailleurs. Et il n'y a pas d'échelle de...
Alors on va revenir sur cette différence parce qu'elle m'importe beaucoup dans cette question de animal humain, Jocelyne Porcher, mais sur cette question de la mort, par exemple quand vous parlez des éleveurs qui tuent les animaux qu'ils ont élevés, vous dites justement ils ont encore une relation à eux après leur mort, et vous parlez même du défunt, c'est-à-dire vous dites, contrairement à l'élevage, alors vous refusez ce mot, mais disons à la production industrielle de viande, avec parfois ce fantasme aussi de viande in vitro, de viande sans vivant, vous dites de viande sans vie, même, on pourrait dire. Contrairement, là, il y a quand même une relation, et même après la mort, même si on a provoqué cette mort, ça reste une relation. Donc, pour vous, c'est le signe, finalement, que l'animal fait partie de la vie humaine, dans ce cas-là.
Oui, parce que c'est une des choses les plus dures à expliquer, à faire partager, le fait qu'on a une relation avec un animal, respectueuse, etc., on prend en considération
individualisée,
voire affective. Et on tue cet animal, et à partir du moment, alors ça par exemple c'est quelque chose à travailler sur tout ce que je fais sur l'abattage à la ferme, à partir du moment où de l'animal vivant, vous le tuez, il reste une carcasse, un animal mort, voilà, il se passe quelque chose là qui est le plus dur, c'est ce passage de la vie à la mort, qui est très dur à assumer pour un éleveur, surtout si c'est lui qui tue ses animaux. Mais à partir du moment où voilà, vous dites, vous assumez, j'ai tué cet animal, de toute façon, j'y ai pensé avant, j'ai ritualisé.
Je savais que c'était dans le sens même de la relation,
j'ai ritualisé,
ça faisait partie.
Voilà.
Vous parlez beaucoup de la ritualisation,
voilà,
effectivement.
Ritualiser la mort, par exemple, je connais des éleveurs qui récitent un poème, voilà, enfin, récitent un poème, là aussi, récitent un poème, ou disent... je te remercie, voilà. Enfin, chacun son...
petit salut, en tout cas.
Voilà. Et puis, mais à partir du moment où vous avez devant vous l'animal mort, bien mort, vous vérifiez qu'il est bien mort, vous commencez à le travailler. Par exemple, pour ce qui concerne les brebis que je connais, vous enlevez la peau, vous commencez à découper, etc. Là, c'est plus l'animal, c'est votre travail.
D'accord.
C'est
le travail humain qui commence.
C'est le travail humain qui commence.
Interhumain.
La transformation de ce qui a été donné par la nature, un animal comme nous, voilà, la naissance, la vie. Là, c'est votre travail humain, la transformation de cette carcasse qui pourrait être du cadavre. Contrairement à ce que disent les libérateurs des animaux, justement, cet animal ne sera jamais cadavre.
Alors, on va venir sur votre critique de la libération, du mouvement de libération animale. Pour vous, c'est la relation qui compte et non pas la libération en tant que telle. Mais je voudrais revenir sur un point très précis, Jocelyne Porchet. Est-ce qu'il ne vous semble pas que la seule différence profonde, mais majeure quand même, malgré tout, entre les relations des humains avec les animaux et les relations entre les humains, c'est qu'entre les humains, il y a l'interdit du meurtre, justement. Et on pourrait dire, il faut malgré tout préserver une forme de différence symbolique entre l'humain et l'animal qui passe, peut-être que tout le reste est commun. La relation subjective, affective, mais que l'interdit de la mort, est-ce que pour vous, ce serait acceptable de dire les choses de cette façon-là ?
Mais oui, c'est ce que j'ai dit, c'est-à-dire que l'animal n'est pas mon prochain.
Oui, mais la question de la mort, est-ce qu'elle sert pour vous de critère aussi ?
Oui, parce que l'animal, il est dans son monde, par exemple, dans son monde de vache, de brebis, de cheval, la mort existe aussi, de toute façon. Il y a les loups, il y a les prédateurs... Là, l'élevage, c'est le contraire de la prédation. C'est de la pacification des...
Voilà. Des rapports entre les vivants.
Voilà, on crée une communauté pacifique, parce que quand on rentre dans une étape, quand on va dans la montagne avec les animaux, etc., c'est tranquille, les animaux... Alors, c'est le problème du loup, justement, réintroduit, mais enfin, c'est autre chose. Et donc la mort... ça n'a pas du tout le même... Elle est légitime parce que, c'est ce que j'ai dit, il y a un sens par rapport au système, il y a un sens par rapport à l'alimentation. Mais nous, on est des humains entre nous. Effectivement, nous, on a, alors moi, je suis pas philosophe, j'ai pas les...
Non, mais vous êtes philosophe parce que dans votre livre « Vivre avec les animaux » et dans les autres, hein, que « Vivre avec les animaux » simplement donne les coordonnées les plus générales, quand même, vous décrivez la vie humaine à travers la vie avec les animaux. À cette différence près, peut-être qu'il manque l'interdit du meurtre entre les humains qui, malgré tout, permet aussi de penser tout le reste et même de penser l'acceptation de la mort animale et de la mort dans la vie, parce que la mort fait partie de la vie, mais pas entre les humains. Voilà. Peut-être quand même ce rapport à la mort. Est-ce que vous seriez prête à accepter ce seuil qualitatif-là ?
Oui, c'est sûr.
Je crois que ça donnerait plus de force encore à l'acceptation de la mort dans la vie et dans le rapport avec les vivants autres qu'humains, disons.
Oui, Frédéric Worms, là, j'ai du mal à répondre parce que là, enfin, pour moi, c'est une espèce d'évidence qu'entre humains, il y a des règles, enfin, des règles, qu'on ne tue pas, le meurtre, effectivement, est prohibé. C'est dans notre monde humain, c'est celui, justement, où ne sont pas les animaux. C'est nos règles à nous, entre nous. On est entre nous, dans cet entre-nous humain. On ne tue pas son prochain. Voilà. Par contre, dans notre communauté élargie, avec les animaux qui font partie de notre communauté, qui font partie des rapports sociaux, qui travaillent avec nous, cet interdit est levé, malgré qu'on soit dans la même communauté, parce qu'eux, ils ont un monde à eux, à part. D'accord. Nous, on est dans notre monde humain. Nous, on n'a pas d'autre, on n'a que ce monde humain.
Alors, Jocelyne Porchet, vous vous opposez donc à d'autres éthiques animales, j'allais dire. Je ne sais pas si vous décririez votre éthique comme une éthique animale, en tout cas, c'est une éthique avec l'animal. Mais vous vous opposez à ceux qui, sans doute pour protester contre ce que vous critiquez aussi, c'est-à-dire l'élevage devenu industrie, la production industrielle de la mort animale, qui nie la vie dans... Voilà, vous avez un très beau chapitre en disant les vivants sans la vie, du vivant sans la vie, pour parler de cette production de vie et de mort. Vous critiquez malgré tout cette autre réponse à cette même indignation. Finalement, il y a une indignation que vous partagez avec beaucoup d'éthiques animales et de mouvements animalistes, même on peut dire aujourd'hui, mais en revanche, vous critiquez leur réponse. Vous avez peut-être la même indignation, mais qu'est-ce qui vous choque? Qu'est-ce que vous refusez dans cette réponse, disons animaliste pour être très rapide?
La proposition animaliste, c'est de régler le problème moral qu'on a avec la mort des animaux en se séparant des animaux. C'est ça, c'est la libération animale, c'est ça.
En s'interdisant, et même d'ailleurs fictivement, parce que vous dites très bien que c'est impossible finalement, en s'interdisant tout rapport, y compris de consommation avec les animaux.
Mais oui, voilà, c'est ça la libération animale, c'est de se débarrasser des animaux pour ne plus avoir, parce que vivre avec les animaux, ça effectivement, ça crée des problèmes. C'est pas simple.
Il y a de l'animal destructeur, il y a du prédateur, il y a du danger aussi.
Ça nous renvoie à tous.
Des besoins vitaux, manger, etc.
Puis ça nous renvoie à tout ce qui fait peur. La maladie, parce que quand on est éleveur, on est confronté à la maladie, à la souffrance, à la mort, au quotidien. Finalement,
Jocelyne Porcher, pour vous, vivre avec l'animal, c'est affronter tout le négatif aussi de nos vies. C'est ne pas vivre dans le déni du vivant, finalement. C'est refuser le déni du vivant. Ceux qui veulent libérer de l'animal, ils veulent nous libérer de notre condition de vivant, en
Exactement.
Un certain sens.
Ils veulent nous libérer de ce qui nous fait peur. C'est-à-dire mourir, déjà, premièrement. Et puis, être vulnérable, avoir un corps, parce que la viande in vitro, c'est ça, hein, au bout du compte, ce qui se prépare, ce à quoi amène la libération animale aujourd'hui, c'est ça.
La viande in vitro, rappelons-le, malgré tout, c'est des projets scientifiques bien réels, qui peut-être se réaliseront un jour, de faire de la viande sans passer par l'animal, de la reconstituer dans des laboratoires techniquement.
C'est de faire de la viande de synthèse, on pourrait dire. C'est-à-dire, c'est de changer le niveau d'extraction de la production, de la matière animale, au lieu d'extraire la matière animale des animaux, on va extraire la matière animale de la cellule. Ce que je dis, c'est que c'est la suite de ce qui précède. C'est vraiment un projet de traitement des animaux de la même façon que la zootechnie l'a conceptualisée au 19e siècle. C'est-à-dire les animaux sont des ressources. Bon, au lieu d'avoir un million de vaches,
on prend une cellule souche et on fait de la viande, au lieu d'avoir un million de vaches,
on en aura une. C'est ce que disent certains concepteurs de cette viande in vitro. Une vache pourra nourrir le monde. C'est-à-dire que là, on est dans un projet, justement, c'est là un projet vraiment mortifère. C'est la suite. Les systèmes industriels, c'est mortifère. Ça nous a coupé de l'animal, parce qu'on ne les voit plus, ils sont maltraités, etc. Et puis là, c'est pire. C'est le degré pire. C'est-à-dire que là...
On se donnera bonne conscience, finalement, Jocelyne Porcher. C'est ça aussi que vous critiquez. C'est-à-dire qu'on pourra revenir à une forme de consommation en croyant avoir bonne conscience, alors qu'en fait, on aura encore plus tué, finalement, encore plus fait disparaître. L'animal, sans passer par l'abattoir, mais en fait en l'ayant détruit quelque chose de plus fondamental encore.
Enfin, c'est carrément horrible. Moi, c'est un projet, mais il n'est pas si futuriste que ça. Il y a en ce moment vraiment.
Pour vous, c'est lié au transhumanisme aussi comme fantasme fondamental.
Voilà. C'est les mêmes qui financent les recherches sur le transhumanisme, qui financent sur la viande in vitro, qui financent sur la robotique, qui financent tout ça. C'est les milliardaires. Grande fondation, etc. Mais c'est vrai que ce projet, l'homme augmenté d'un côté, l'homme diminué de l'animal de l'autre, et un appauvrissement, vraiment se priver des animaux, c'est quelque chose qui m'apparaît complètement.
Est-ce que votre position, Jocelyne Porcher, qui est une position quand même très originale, qui n'est pas évidemment la revendication de tout rapport à l'animal au nom de ce transhumanisme, etc., ou de la disparition, qui n'est pas non plus dans les mouvements de libération animale, qui est dans cet entre-deux, en distinguant deux relations entre l'humain et l'animal, en distinguant malgré tout toujours l'humain et l'animal, est-ce que votre position est audible? Est-ce que c'est difficile pour vous de faire entendre cette position dans le débat actuel qui est de plus en plus quand même intense sur ce sujet?
C'est pas si facile, mais en même temps, je pense que je suis,
ça répond à un
plus
besoin,
entendu
quand même,
maintenant que parce que maintenant.
Ça fait 20 ans, 30 ans que vous travaillez sur ces questions.
Ça fait la première fois que j'ai mis un pied dans un système industriel, c'était en 90. Je n'ai pas cessé depuis. J'y suis allée la première fois pour un stage. Mon mémoire de ce que je raconte dans Vivre avec les animaux.
Oui, rappelons que vous étiez agronome au départ, vraiment. Oui. Et, enfin, vous avez un parcours très concrètement lié à tout ça.
Mon premier mémoire, c'était de BTA, bac agricole, puisque j'ai repris toutes les études. J'avais fait un stage dans une porcherie et mon petit mémoire, c'était sur un petit cochon qui s'appelait Profi et donc qui décrivait sa vie dans les porcheries. Ce que j'ai repris après, d'ailleurs, un livre qui s'appelle Une vie de cochon que j'ai créé avec une salariée d'élevage.
Là, vous avez écrit aussi aux éditions Quae un livre qui s'appelle Cochon d'or, l'industrie porcine en question. Des livres plus militants, des livres plus de documentation. Cette variété de genres littéraires, Jocelyne Porcher, vous allez continuer? Vous voyez quels sont vos prochains projets, j'allais dire, d'écriture aussi, parce qu'il y a toute une palette qui nous fait sentir aussi la diversité de nos rapports à l'animal. D'un côté, il y a un rapport marchand, économique, industriel. D'un autre côté, vous voulez faire sentir aussi un rapport humain, esthétique. Quels sont vos prochains projets concrets, Jocelyne Porcher, sur ces questions et peut-être au-delà,
hein? Là, tout de suite, j'ai deux commandes d'éditeurs, donc... Enfin, je suis déjà bien en retard. Bon, mais
c'est de la théorie, c'est
non,
de la...
non, il y en a. Oui, il y en a.
C'est de la politique.
Il y en a un qui est une reprise d'un livre que j'ai écrit pour l'enseignement agricole qui s'appelle Bien-être animal et travail en élevage. J'ai écrit en 2004, donc il faudra une mise à jour.
C'est un manuel finalement.
C'est un ouvrage pédagogique pour l'enseignement agricole pour questionner cette problématique du bien-être animal à l'aune du travail. Donc voilà, qu'est-ce que c'est le bien-être animal et puis l'autre, c'est un petit livre sur l'élevage. Donc je voudrais rassembler voilà, ce que je retiens de mes recherches pour définir, pour dire qu'est-ce que c'est que l'élevage au moment, je pense, où il va disparaître. Mais...
Vous pensez que l'élevage va disparaître? Vous pensez que cette notion d'élevage, qui pour vous fait partie des modèles du vivant en général, enfin des relations entre les vivants, pensez qu'elle est vraiment menacée
Ah oui, je pense. Je pense que les évolutions technologiques, la viande, parce que derrière la viande in vitro, il y a aussi...
On n'élève pas seulement pour la viande, il y a aussi...
Le lait, voilà, ouais. Le lait, les... Enfin, et puis il y a quand même... Puis les robots qui remplacent, par exemple, les animaux dans les maisons de retraite, déjà. Enfin, il y a une technologisation de nos vies qui fait que ce qu'apporte l'animal de vulnérabilité... De fragilité, de perte, parce que les animaux, un chien même, voilà, il meurt, quoi. Donc il meurt trop tôt.
Il vit moins longtemps que les humains.
Voilà, il meurt trop tôt.
Il faut l'admettre, ça fait souffrir. Il nous met devant la question de la mort.
Voilà, ça fait souffrir.
On a l'impression, pour vous, Jocelyne Porcher, que l'élevage est quelque chose de fondamental, parce que sinon on va être écartelé entre une industrie où il n'y a plus d'animaux en tant que tel, et puis un rapport un peu peut-être d'animaux domestiques devenus un petit peu simili-humains aussi, et donc finalement une confusion possible aussi de certains côtés. Et l'élevage est ce mixte qui est la réalité, au fond, de cette relation.
Enfin, moi, je pense que l'élevage, c'est la matrice de nos relations. Et donc, que si l'élevage disparaît, progressivement, tous les animaux domestiques vont disparaître. Puis, il n'y a pas de raison de dominer un chien, même si on ne mange pas le chien. La racine de la libération animale, c'est l'appropriation, c'est la domestication. Donc, c'est bien la domestication qui est en jeu dans notre... aujourd'hui, et je pense que la vraie sortie du néolithique.
Il restera toujours malheureusement des dresseurs de chiens sauvages, de chiens guerriers, de chiens de prison. Malheureusement, peut-être que ce dressage-là, entre les humains, il y a cette polarité aussi, Jocelyne Porcher. Malheureusement, l'animal est parfois aussi utilisé pour faire la guerre.
Oui, Mais justement, c'est parce qu'il est tellement avec nous qu'il fait.
Il fait le meilleur et le pire.
Il fait le meilleur et le pire, voilà. Il fait le meilleur et le pire.
Merci beaucoup, Jocelyne Porcher.
Ben, merci.
Et j'espère que le meilleur va quand même résister au pire.
Merci.
Matière à penser, animal-humain, ce soir la relation avec l'animal, avec et grâce à Jocelyne Porcher, avec et grâce aussi à Olivier Dupré, Justine Vildé, Sandrine Chaperon, Catherine Donnet, Anne-Pascale Desvigne, Frédéric Worms. Je vous donne rendez-vous demain avec Gilles Boeuf. À demain.